Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Il est 19h sur Syllab et vous écoutez J'ai craché sur vos ondes, l'émission qui s'intéresse aux faits et objets littéraires de tout poil. Ce soir, on tend le micro à Alistair Oudeye, à l'occasion de la parution chez Double Ponctuation de son essai « Les hommes trans sont-ils des salauds comme les autres ?» Sous-titré « Transmasculinité, féminisme et patriarcat ». Ce n'est pas la première fois que nous vous donnons à entendre les propos de cet artiste, déjà entendu dans cette émission en décembre 2020 pour nous parler de son seul en scène et aussi livre audio « Plume, fable dufteuse pour interprète étrange ». Il y était question de violence normée, de corps divergents et d'amour de soi. Alistair Oudeye est donc assurément auteur, mais il est aussi vidéaste, principalement sur la chaîne YouTube H Paradoxaï. Il y parle d'autisme, d'handicap, de validisme, de transidentité et des intersections entre ces différentes notions. Le 14 juillet 2024 sortait sur sa chaîne Transmanar Trash, Transmasculinité, Féminisme et Patriarcat, une vidéo-essai de 52 minutes qui manifestement est à la base de l'essai littéraire paru cette année. Avec l'auteur vidéaste, nous revenons donc sur son parcours de créateur, sur les enjeux de cette évolution de la vidéo à l'écrit, et sur les enjeux de son essai. Car derrière cette interpellation provocatrice, transmenard trash, les hommes trans sont-ils des salauds comme les autres, il s'agit bien de parler des transmasculinités au pluriel, dans ce qu'elles ont à voir avec le féminisme et le patriarcat, et croyez-moi, les enjeux soulevés sont vitaux. Alors, est-ce que pour commencer cet entretien, tu pourrais te présenter aux auditeurs et auditrices en quelques mots ?
Je m'appelle Alistair Oudeye, je suis auteur et youtubeur. Je travaille notamment sur les enjeux d'une part de handicap et d'autre part de transidentité, de sexualité, de genre, de questions queer, tout ça. Et aussi beaucoup l'entrecroisement des deux et le mélange des deux.
Et avant de parler un peu de ton dernier ouvrage, « Les hommes trans sont-ils des salauds comme les autres ?» qui est paru aux éditions Double Ponctuation. Je voulais revenir avec toi sur ton parcours de personne qui crée des choses. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment tu as commencé à prendre la parole, à devenir créateur, et quelles ont été les étapes qui t'ont mené à l'écriture de ce manuscrit-là ?
Ma chaîne, elle a 9 ans maintenant. J'ai commencé en 2016. C'était le début de ma transition. Et je me rendais compte qu'à chaque fois que j'avais des discussions avec des gens sur être trans, la transition, le genre, etc., c'était toujours un peu les mêmes thématiques, les mêmes questions qui revenaient, et que j'étais tout le temps en train de me répéter, en fait. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire mes vidéos de capsules qui répondent à une question souvent posée, un argument courant sur la transidentité, etc. Mon format et mes sujets ont évolué au cours des 9 dernières années, mais cet élément de départ-là, pour moi, est resté, en fait. Et mon but, c'est toujours de créer des boîtes à outils avec des ressources sur différents sujets qu'on puisse réinvoquer quand on en a besoin, et voilà, de nourrir les réflexions sur ces sujets-là et de faire un peu ce que j'appelle, moi, de la vulgarisation de savoir communautaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui m'ont été très utiles, que j'ai appris dans mon parcours de personnes trans, de personnes handicapées, etc., que j'ai appris par le simple fait de fréquenter d'autres personnes queer, d'autres personnes handicapées, et de vivre ma vie de personne queer et handicapée, mais qu'on ne va pas forcément trouver dans des études scientifiques, dans des ouvrages de recherche, etc., plus du savoir expérientiel. Mais il se trouve que les personnes qui sont isolées de leur communauté, qui ne savent pas encore où chercher, qui ne sont pas forcément en moyen de se déplacer, qui ne sont pas forcément en moyen de contacter des associations, d'être dans des lieux de socialisation, etc., n'ont pas accès à ces choses-là parce qu'elles se font au bouche à oreille, en fait. C'est le fait de se fréquenter, de faire communauté qui crée ces savoirs. Et du coup, pour moi, il y avait vraiment l'envie de rassembler ces choses-là dont on fait l'expérience et dont on parle entre nous, mais qui n'est souvent pas produit de manière très archivable, en fait. Et cet enjeu de « il faut que ce soit un truc qu'on puisse retrouver et réutiliser », pour moi, c'était aussi vachement important.
Et est-ce que tu dirais qu'il y a aussi un peu une dimension d'accessibilité ? Accéder à des ressources via Internet et via YouTube, c'est une dimension aussi qui change la donnée, la façon dont on accède à ce savoir-là ?
Ouais, complètement. Pour moi, il y a vraiment un enjeu d'amener des savoirs à des personnes qui ne sont pas forcément en mesure d'aller au centre LGBT, d'aller dans des associations de personnes autistes, etc. Soit parce qu'elles peuvent physiquement pas le faire, soit parce qu'elles en sont aussi pas là de leur parcours, et qu'il y a un endroit de transition entre je me pose des questions et j'arrive dans une association de personnes queer, de personnes handicapées. Il faut des choses qui fassent le pont entre ces deux-là, et je pense que ça peut être par exemple le genre de choses que je fais. mais aussi pour moi il y avait aussi beaucoup l'enjeu de faire des choses en français, parce que des choses en ligne à l'époque où j'ai commencé ma chaîne, il y en avait plein, mais elles étaient en grande majorité en anglais. Des chaînes francophones sur l'autisme, comme moi j'ai fait à un moment, ça existe pour ainsi dire pas, alors qu'en anglais il y en a beaucoup, et c'est ça aussi qui m'a informé et qui m'a inspiré. Pour moi c'est aussi un grand enjeu d'accessibilité de faire tout ce travail-là en français, parce qu'on a un vrai manque là, et que les personnes qui parlent pas anglais sur les thématiques marginalisées sont vraiment en manque de ressources souvent.
Mais cette chaîne, elle a évolué. Les formats que tu faisais en 2016 ne sont plus tout à fait ceux que tu fais en 2025. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette progression-là qui nous amène à des vidéos qui s'approchent en fait de l'essai, justement ?
Ouais, effectivement, pendant longtemps, j'ai fait des formats de vidéos qui étaient plutôt sur du 10, 15, éventuellement 20 minutes, sur des sujets assez délimités, notamment toute la période où je faisais la série « Mieux comprendre l'autisme », où donc j'allais faire une vidéo sur les troubles sensoriels, on en parle 10 minutes, on explique ce que c'est, une vidéo sur les crises autistiques, une vidéo sur les routines, etc. Et donc c'était des capsules qui étaient assez courtes et précises dans le sujet, restreintes. Je pense que c'est des outils qui sont vraiment utiles et nécessaires, mais aussi plus le temps passait, plus je me sentais un peu frustré par ce format-là. Ça a toujours été politique pour moi de faire ça, parce que évidemment derrière la manière dont on parle de handicap, de genre, etc., même si on le présente de manière neutre ou pas militante ou quoi, où c'est juste ce symptôme-là, il est comme ça, il y a quand même forcément une manière d'analyser, de présenter, etc., qui est politique. De est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est pas un problème, est-ce que les gens ont besoin d'aide pour cette chose et qui est-ce qui va leur apporter. Toutes ces questions-là, elles sont très politiques. Et du coup, il y avait toujours forcément ça qui était en arrière-plan de mes vidéos et que j'avais envie de développer plus profondément, mais ça nécessite forcément un format différent. Et il y avait aussi le fait de me remettre à parler de transidentité. Pour refaire un petit peu la timeline, j'ai commencé ma chaîne en même temps que ma transition, et donc je parlais surtout de transidentité, de genre, etc. Et puis, j'ai réalisé que j'étais autiste et j'étais plus handicapé qu'avant, donc c'était quelque chose qui prenait plus de place dans mon quotidien. Donc j'ai commencé à pas mal parler de ça et j'ai arrêté de parler de transidentité pendant un moment. Puis j'ai repris ma transition médicale cette fois après plusieurs années, et du coup c'est redevenu une question qui s'est posée différemment dans mon quotidien, donc c'est revenu au centre de mes vidéos aussi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler de plus en plus l'intersection entre le handicap et le genre, la sexualité et la transidentité, l'intersection politique aussi de ces questions sur l'autonomie corporelle, le rapport au médical, etc. Il y a beaucoup d'endroits où ces deux sujets se croisent et se ressemblent. Pour parler de tout ça, il fallait faire des choses beaucoup plus longues. et c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus format vidéo essai. J'ai donc fait une vidéo sur les hommes trans, le féminisme, le patriarcat, qui dure, il me semble, 45 minutes. Ma dernière vidéo, pareil, les personnes trans sont-elles folles ? Typiquement, je parle de cet entrecroisement entre l'histoire de la psychiatrie, de la marginalisation des personnes malades mentales et la transidentité, etc. Elle fait 55 minutes aussi. Donc, c'est vrai que mes formats récemment ont pas mal évolué. Et je pense que quelque chose qui me permet de faire ça aussi, c'est que l'information courte et un peu plus de terrain parfois que je faisais avant, elle est plus accessible que quand j'ai commencé. Il y a moins besoin que ce soit moi qui fasse ces petites capsules-là précises, etc. Parce que des articles sur la transidentité et l'autisme, on en a beaucoup, beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années. Et donc, ça me libère aussi la place de me dire, il y a déjà des gens qui font ce travail. Donc, ce truc un peu plus niche, un peu plus complexe, un peu plus dense, un peu plus très spécifique à moi, mes compétences, je peux me lancer vraiment dedans, parce que le reste, c'est aussi fait par d'autres personnes.
Oui, le généraliste est couvert, donc tu peux te permettre de développer des points de vue plus personnels.
C'est ça. Et puis aussi parce que j'ai déjà une audience qui est un peu installée, donc juste financièrement, je suis dans une position où je peux me permettre de faire des choses un peu plus niches, qui prennent plus de temps à développer, etc. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me soutenir là-dedans. Alors que c'est sûr que si tu commences que personne te connaît, que tu fais des vidéos de 50 minutes sur des sujets un peu obscurs et spécifiques, c'est difficile d'accumuler un soutien qui te permet de faire ça, quoi. Donc c'est vrai que ça joue aussi forcément.
Oui, il y a la dimension, on va pas regarder ce sujet-là parce qu'il est intéressant, mais on va écouter ce que toi, personne intéressante, tu as à en dire.
Je pense qu'il y a un peu de ça. C'est intéressant parce que quand je suis transitionné de parler de transition à parler d'autisme, en fait, j'ai pas perdu tant de gens que ça dans mon audience, parce qu'il y a plein de personnes qui étaient là pour la transidentité, qui étaient aussi autistes et handicapées parce que c'est courant et parce que je pense que si elles ont connecté à moi et à mon contenu, c'est aussi pour ça. Mon audience a aussi évolue avec moi, dans le sens où il y a des personnes qui sont arrivées, des personnes qui sont parties, mais aussi dans le sens où les personnes qui étaient là leur identité et leur intérêt à évoluer en même temps que moi et en même temps que ma chaîne, et se retrouvent elles aussi à l'intersection de ces différents sujets et avec ces intérêts-là, mais n'auraient pas forcément spontanément cherché une chaîne qui parle de l'intersection de handicap et de transidentité. Mais maintenant qu'elles sont là, bah, c'est des sujets qui les touchent et qu'elles vont chercher. Et puis, il y a un enjeu marketing aussi de... C'est difficile de faire la promotion de ce genre de contenu. Et donc, le fait que mon contenu soit déjà visible juste parce que les gens me connaissent déjà me permet de faire ça et que ça arrive quand même quelque part, alors que les gens tomberaient pas forcément par hasard si j'étais une toute petite chaîne, quoi.
Petite pause dans notre entretien avec Alistair Oudeyer pour vous proposer l'écoute d'un pseudo micro-trottoir. Je ne suis pas allée littéralement sur le trottoir. Je vous avoue que j'avais un peu la flemme de m'exposer en solo à des débats en direct dans la rue. Qui plus est à propos de slogan féministe et sur la transidentité avec le premier qui dame venu. Alors j'ai plutôt fait un appel sur mes réseaux en ligne, auxquels 4 personnes ont accepté de répondre.
Une première question, est-ce que tu connais la formule Men Are Trash?
Oui, je connais, je suis familier avec ce slogan.
Et est-ce que t'es d'accord avec ça? Comment toi tu le comprends?
Ben je le prends pas personnellement parce que ça m'est pas destiné personnellement, mais c'est plus destiné à un ensemble.
Personnellement, je trouve que c'est un slogan de merde.
Enfin pour moi c'est vraiment le dénoncer... de manière structurelle, donc le fait que la place des hommes, entre guillemets, a certains droits, certains privilèges, bref, voilà, le patriarcat, etc. C'est vraiment au niveau structurel et systémique.
Je trouve que c'est un slogan de merde parce que je trouve que c'est un slogan qui est pas clair du tout sur ce qu'il est supposé vouloir dire.
Alors, je suis d'accord avec, dans la mesure où on parle des hommes en tant que groupe social et non pas en tant qu'individu au un à un.
Men are trash, as in les privilèges des hommes et la société comme elle est faite, etc., qui privilège les hommes et qui n'est pas égalitaire, est trash. Parce que men are trash en soi-même, ça veut dire bah, que les mecs en soi, les individus, sont trash. Et avec ça, je ne suis pas d'accord.
C'est pas forcément la seule grille d'analyse.
Et du coup, seconde partie de ma question, et les hommes trans dans tout ça?
Pourquoi tu me poses des questions comme ça à moi?
Je pense que c'est une question sur laquelle on doit être nuancé.
Je pense que les choses sont pas, entre guillemets, binaires. Bref. Dans le sens où, que pour moi, il y a les mecs trans dedans, dans un absolu.
Bah, je connais beaucoup plus de mecs que de mecs trans, donc je suis moins tranché dans mon opinion, mais pour le coup, je trouve que... c'est moins justifié.
Bah, les hommes trans, c'est comme pour le slogan de base. Ils sont pas plus trash selon le slogan machin.
Parce que les hommes trans restent des personnes qui ont pas la même expérience que les hommes cis. Les hommes cis hétéros. Mais ils acquièrent des privilèges. Les mêmes privilèges que les hommes cis hétéros. Ça, encore une fois, c'est un peu du cas par cas. Faut nuancer parce que tu as des hommes trans qui seront clairement vus comme des ta tête, pardonne-moi le mot, de par leur orientation sexuelle, de par la présentation de leur genre, etc. etc. Mais n'empêche qu'ils gagnent quand même des privilèges, et du coup qu'ils peuvent reproduire consciemment ou inconsciemment, ça dépend des gens, dépend des caractères, une oppression similaire. Je dirais que s'ils font pas gaffe, they can be trash.
Ça rentre dedans, parce qu'encore une fois, on parle pas à un niveau individuel, mais à un niveau systémique.
Par contre, un truc que j'ai observé, c'est qu'il y a des mecs trans qui savent ce que c'est, justement, ben, de subir des
oppressions.
Merci. Parce que, justement, ayant été perçus comme femmes, etc., avant. Sauf que j'ai aussi vu des mecs trans qui, tout en ayant vécu ça, adoptent, je suppose, par mécanisme d'assimilation, des mentalités et des mécanismes comportementaux de mecs cis. Avec bah, justement ce qui est nul de privilège et compagnie.
C'est pas parce qu'un mec trans, on va dire, est aussi trans, et du coup, de facto, va vivre de la transphobie, va subir le fait de ne pas être dans les normes de genre, et donc de ne pas forcément à certains moments correspondre aux normes masculines, etc. Mais quoi qu'il en soit, à plein d'endroits, va se construire en fait en tant qu'homme, et ou être perçu en tant qu'homme. Donc ça, voilà. Ça le fait rentrer dans la catégorie homme, en fait. Pareil, toujours de manière systémique.
Et tu l'as mentionné, avant ton essai littéraire, il y a une vidéo qui date du 14 juillet 2024. Le titre « Transmen are trash, transmasculinité, féminisme, patriarcat » est un écho direct au livre que tu as publié. Est-ce que tu peux nous parler un peu des enjeux d'écriture, réécriture qu'il y a eu du passage de la vidéo à l'objet livre.
À la base, j'ai été contactée par Double Ponctuation, donc ma maison d'édition, non pas pour écrire avec eux, mais pour recevoir un livre qu'ils avaient publié, qui était Une grossesse ordinaire de Souchina Lagouge, qui est une femme handicapée qui a écrit un livre sur sa grossesse à la maison Double Ponctuation. Et donc, ils m'ont contacté pour me dire « Est-ce que vous voulez un exemplaire du livre de service presse pour le lire et pour en faire la promotion ?» J'ai dit « Bah oui, bien sûr. » Et comme ils ont regardé qui j'étais pour faire le service presse, l'éditeur m'a dit « Bah, du coup, j'ai regardé un peu vos vidéos, tout ça, ça a l'air intéressant. Est-ce que ça vous intéresse d'adapter une de vos vidéos, notamment peut-être celle sur les hommes trans et le féminisme, tout ça, en livre ?» J'étais genre « Bah oui, évidemment, ça m'intéresse. » Parce que mon travail au quotidien et la source de mes revenus, etc., c'est le fait de faire des vidéos sur YouTube. Mais donc j'ai déjà écrit un livre qui s'appelle Plume, qui a déjà été discuté sur cette émission, il me semble. Et donc il y a une pièce de théâtre qui parle plutôt de handicap, mais aussi de thèmes queer, etc., et plus généralement de marginalisation, en fait, c'est surtout ça le thème. Du coup, voilà, moi, je suis aussi auteur à la base, même si c'est juste que... c'est pas mon occupation principale parce que j'ai ma chaîne à gérer et que c'est ça qui paye mon loyer. Donc voilà, mais quand j'ai eu l'opportunité d'écrire plus pour de la publication traditionnelle, pour du livre, ça m'intéressait aussi beaucoup. J'ai repris la transcription de la vidéo et je l'ai retravaillée pour la publication. Et c'était un travail qui m'a vraiment fait beaucoup progresser à plein d'égards en écriture. C'était vraiment très chouette. Et ça m'a posé plein de questions sur mon rapport à la manière dont j'écris et les vidéos et autre chose, etc. Il y avait évidemment un enjeu de retravailler le ton et l'adresse parce que je ne vais pas commencer le livre par « Bonjour, bienvenue dans mon livre !» Mais il y a aussi un effet où, quand j'écris mes vidéos, des fois, je me dis « Ah, je sais que cette phrase, elle est un peu longue, tel truc, ça ne se formule pas tellement comme ça normalement, ça ne se fait pas en bon langage, en bonne édition, bien comme il faut, mais tant pis, de toute façon, c'est moi qui écris, c'est moi qui monte, c'est moi qui tourne, donc je fais ce que je veux. » Et là, je me disais, merde, il faut quand même que je suive peut-être un peu les règles et que je réfléchisse. Mes critères de réflexion sur qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire n'étaient pas les mêmes, sans que mon éditeur ait forcé ça sur moi, mais juste tout seul dans l'écriture, je me disais, oui... il y a peut-être une raison auquel on me demande de pas faire des phrases de 300 mots à chaque fois. Faudrait que je mette 2-3 points quand même dans ce script. C'était vraiment très intéressant de faire ce travail-là. Et ça s'est bien passé parce que le script de départ fait 11 000 mots et le livre en fait 18 000. Donc il y a vraiment eu un travail de réécriture complet. Et aussi, j'ai pu intégrer un truc qui est toujours un peu frustrant dans les vidéos, c'est que tu travailles tout seul. Et puis une fois que c'est posté, c'est fini. Donc, au moment où les gens commencent à te dire « Ah, je pense à tel truc, ça, c'est intéressant, mais j'ai pas bien compris, ça, c'est chouette, mais je trouve que tu aurais dû parler plus de ça, etc. » Quand tu as des retours sur ce que tu as produit, c'est déjà fini, en fait. Le produit, il est déjà publié, c'est foutu. Comme moi, je travaille tout seul. Et donc là, j'ai pu reprendre toutes les retours, ce que les gens trouvaient pas très clair, ce avec quoi ils étaient pas d'accord, ce qu'ils pouvaient trouver qui manquait. Ce que moi, a posteriori, je me suis dit « Ah merde, j'aurais bien aimé parler de ça, en fait, j'y avais pas pensé au moment où je l'ai écrit. » Donc, j'ai pu un peu ramasser tous les retours que j'avais eus sur cette vidéo pour les réinjecter dans une deuxième version augmentée et améliorée par tous ces retours-là.
Et quelques références bibliographiques qui apparaissent dans l'essai. Je pense notamment à l'ouvrage de Bellux. Il y a également l'ouvrage collectif PD qui a rejoint la bibliographie. C'est des lectures que tu as fait pour la publication ou c'est des lectures que tu avais engrangées depuis la sortie de ta vidéo hein?
Alors, pour cette publication-là, j'ai pas fait de lecture. Alors, j'ai lu un peu, notamment plus sur des... J'ai fait des recherches d'études scientifiques parce qu'il y avait 2-3 trucs que je disais, que je savais qui étaient vrais parce que je l'avais lu quelque part, mais je me dis, merde, quand même, si je le mets dans le livre, il faut que je vérifie. Et c'était vrai, hein, j'étais pas en train de raconter n'importe quoi à la base. Mais par exemple, à un moment, je parle du fait que les hommes gays et bi vivent plus de violences sexuelles que les hommes hétéros. Et j'étais genre, je sais que c'est vrai et c'est logique. Mais ce serait peut-être bien quand même que je mette une source, donc je vais aller chercher et vérifier. Ça m'a fait un peu recreuser dans la littérature scientifique sur un certain nombre de trucs comme ça, aussi sur les violences dans l'enfance vécues par les personnes trans, ou enfin des choses comme ça. Mais j'ai pas lu d'ouvrage spécifique pour cette publication-là, parce que j'avais déjà travaillé mon sujet pour la vidéo. Mais effectivement, notamment PD, je l'avais pas cité comme source dans la vidéo, il me semble, parce que dans l'essai, j'ai rajouté tout un chapitre qui parle notamment... des hommes gays, des hommes trans gays, des hommes cis gays, de la manière dont on gère ces questions-là. Donc ça m'a paru intéressant de rajouter cette œuvre-là à la bibliographie qui n'était pas là à la base, parce que justement je faisais cette ouverture et que je trouve que c'est une bonne référence réfléchir l'homosexualité masculine dans sa diversité, dans sa vulnérabilité, etc.
On a parlé un petit peu de quand même des conditions matérielles de production. Quand tu écris, que tu tournes et que tu montes ta vidéo, tu fais tout seul. Ouais. Mais qu'est-ce que ça apporte comme dynamique au niveau des enjeux financiers du passage de la vidéo au passage du livre? Même si on sait que le livre, ça rend pas riche.
Moi, une des questions que je me suis plus posée au final sur l'enjeu matériel, parce qu'effectivement, comme tu le dis, voilà, le livre ne rend pas riche. Je vais être payé, mais bon, voilà. C'est pas, enfin, à part exception, c'est pas quelque chose de très pérenne. C'est-à-dire que là, j'ai sorti un livre, mais je vais pas être payé sur ce livre de manière, enfin, déjà, de toute façon, le premier moment où je vais être payé, ce sera en septembre 2026. Donc, de toute façon, je peux pas me dire, ah, bah, j'écris un truc et ça me paye. Donc, c'est ça qui fonctionne maintenant. Mais du coup, ce qui se passe concrètement, c'est que j'ai écrit le livre. Pour être transparent, moi, je touche l'allocation adulte handicapé. Donc, de toute façon, si je gagne pas d'argent, j'ai quand même des revenus. Mais sur mes revenus professionnels, c'était juste que je continue à toucher de l'argent de YouTube, de Patreon pour les gens qui me soutiennent pour mon travail, etc. Et du coup, une des grosses questions que je me posais pendant l'écriture, c'était mais est-ce que c'est pas malhonnête quelque part que je suis payé par les gens qui soutiennent mon travail de création sur Internet, alors que je suis pas du tout en train de travailler là-dessus, et ces gens-là me payent quand même alors que je suis pas en train de travailler pour eux, en fait. Ça m'a effectivement aussi questionné sur cette question de comment je suis financé en quotidien, et c'est une question que je me pose beaucoup parce que je suis handicapé, malade chronique, ma capacité de travail est vraiment réduite ces derniers mois. Là, ça va mieux, mais j'ai été très malade, donc j'ai aussi pas pu vraiment travailler. Là, j'ai pas publié de vidéo depuis octobre l'année dernière, et les gens continuent de me payer, et je me dis en fait, s'ils le font, c'est bien que eux ils considèrent que ça vaut le coup, personne ne les force, mais en même temps, je devrais être en train de produire quelque chose puisqu'on me paye. Est-ce que j'ai vraiment le droit de me reposer? Et du coup, ça a un peu rajouté des enjeux à ces questions-là, et j'ai pas de réponse complète à ces questions-là, si ce n'est que j'essaye de me dire le travail que j'ai déjà fait, il existe toujours, et si les gens contribuent à financer ce travail-là, c'est parce que ce qui existe est toujours utile, en fait. J'ai pas forcément besoin d'être en train d'activement produire quelque chose pour que mon travail soit encore en train de produire quelque chose, lui. Et l'autre enjeu là-dedans, c'est aussi que il y a un truc un peu bizarre avec le fait de faire des vidéos sur YouTube où mes revenus, forcément, sont proportionnels au fait que je produis du contenu. Plus je suis présent, plus je fais des choses et plus les gens vont répondre en face. Mais je suis pas payé à la vidéo non plus. Si j'arrête de travailler pendant 6 mois et que les gens se disent pas, Alistair, il faut rien, j'arrête de le payer, je suis payé quand même. Donc, il y a une espèce d'inertie où c'est toujours impossible de savoir qu'est-ce que j'ai fait qui font que les gens me payent ou pas. Je sais pas trop où je vais avec cette réflexion, mais ouais, c'est vrai que la question du rapport entre qu'est-ce que je produis, qui me paye, pourquoi, est-ce que je le mérite, est-ce que c'est en fait de toute façon pas la question que je dois me poser, c'est quelque chose qui est vraiment présent dans ce genre de travail au quotidien.
Oui, j'avoue que pendant que tu parlais, je pensais au fait qu'il y a des gens qui sont payés pour faire des lois du plomb, donc franchement...
c'est vrai. Non, mais c'est ça, des fois je me dis, ah mon Dieu, mais les gens me donnent de l'argent alors que je travaille pas beaucoup, et après je me réveille que je suis payé 400 euros par mois, et genre, il n'y a pas de quoi paniquer non plus.
Comment toi, t'as vécu, en fait, on va dire, le coût énergique que c'est de travailler au livre plutôt que de travailler à une vidéo?
Dans la question du coût énergique, la chose qui a été la plus différente, c'est que j'avais une deadline, c'est-à-dire que j'ai signé un contrat où je disais le 28 mars, j'ai envoyé mon script. et non seulement j'ai signé le contrat, mais aussi nous, en fait, l'objectif, c'était de le publier en juin pour le mois des fiertés. On était vraiment serrés, c'est-à-dire que voilà, moi, j'ai travaillé le script avant de l'envoyer pour la première fois tout le mois de mars, alors qu'on publiait en juin. Donc, tout le mois d'avril, on était en train de faire la relecture. Et dès qu'on a fini la relecture, on l'a envoyé. Enfin, il n'y a vraiment pas eu de... C'était très serré, quoi, comme planning. On a fait le livre en 3 mois. Le plus coûteux, au final, ça a été que j'étais obligé de... Je pouvais pas me dire, là, c'est compliqué, je vais prendre 3 jours de pause, je retravaillerai plus tard, parce qu'il fallait que je finisse le livre à temps par rapport aux vidéos où je peux toujours juste les finir plus tard. Mais en même temps, c'était quelque chose qui était vraiment stimulant. J'ai eu vraiment une bonne expérience, des retours de mon éditeur, de la correctrice, etc. Et ouais, il y avait quelque chose de... Enfin, je me sentais vraiment pas stressée et jugée à me dire « mais peut-être qu'il va trouver que c'est nul » ou je sais pas quoi. Et le fait de savoir que j'allais avoir un retour, que quelqu'un d'intéressé et de compétent sur le sujet allait lire le truc, me dire « tu vois là, telle chose, il faut qu'on change » ou « telle chose, c'est pas clair », etc. Ça me donnait aussi pas mal d'énergie par rapport au fait de devoir travailler tout seul et de pas savoir quand ce sera fini, de pas avoir de retour pendant des mois et des mois. Donc, ces deux choses-là se compensaient un peu, en quelque sorte, même si je pourrais pas faire ça tout le temps.
Et l'autre enjeu que je voyais sur le passage de la vidéo à un objet livre, c'était un peu l'enjeu médiatique que ça pouvait avoir. Alors, tu nous racontais que du coup, c'est l'éditeur qui est venu à toi. Donc, c'est la question que j'avais formulée ne marche pas tout à fait, mais j'ai du mal à la reformuler. Donc, je vais la dire telle quelle.
Pas de souci.
Est-ce qu'il y avait une volonté de toucher plus de monde ou alors des personnes que tu n'aurais pas touchées autrement que par un livre?
Alors, du coup, c'est quand même une très bonne question parce que, effectivement, comme je le disais, le livre est un peu une adaptation, entre guillemets, de la vidéo, même si pour moi, ça dresse des objets où, bah, au final, le livre est vraiment plus la même chose et j'y ai rajouté beaucoup, etc. Mais bon, on est quand même sur deux choses où l'idée de base est la même, le sujet est le même, etc. Puis après, avec ces questions de financement, etc., je me posais encore une fois les questions de est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que, en fait, je suis juste en train de réutiliser un truc que j'ai déjà fait pour refaire de l'argent dessus et c'est nul? Et en fait, non, je crois vraiment que c'est bien. On sous-estime, je pense, souvent à quel point le format d'une information change les gens qui y ont accès. Et qu'en fait, dire exactement la même chose dans une vidéo YouTube, dans un livre papier, dans un e-book, dans un podcast, dans un article de journal, dans un thread Twitter, même si tu dis exactement la même chose, ce qui est en plus pas le cas ici, c'est quand même des ressources différentes qui vont servir à différentes personnes, qui vont pouvoir être utilisées par différentes personnes pour différents buts, etc. Pour moi, c'est vraiment pertinent que ces différents objets existent. Et encore une fois, dans cet enjeu d'accessibilité, en fait, déjà moi, quand je fais les vidéos, je fais toujours des retranscriptions. Donc, il y a une version article sur mon site qui est en ligne parce que je sais que voilà, il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus accès à l'écrit ou à la vidéo, etc. Pour moi, je sais pas si du coup, effectivement, la question de est-ce que c'était le but, vu que c'est pas moi qui ai lancé ce projet à la base, se pose pas tout à fait comme ça. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est le résultat et que c'est l'intérêt que moi, je trouve à avoir fait ces deux objets-là. En dehors de, je pense que le livre a des qualités supérieures parce que j'ai pu repasser dessus avec plus de retours, avec plus de recul, etc. Il y a effectivement vraiment le fait que c'est différentes personnes qui vont l'utiliser. Et ça, c'est vraiment important, en fait.
Je pense qu'il y a aussi une question d'opportunité qui va jouer différemment. Je sais que les vidéos YouTube, c'est des ressources hyper utilisées dans l'espace pédagogique, par exemple. Mais n'empêche que pouvoir laisser un livre dans une médiathèque, dans un CDI, dans une bibliothèque temporaire, monter sur une colo de vacances, c'est encore une autre opportunité qui est un peu moins dirigiste, ce qu'une vidéo YouTube permet moins de faire. La vidéo YouTube, elle est plus montrée que laissée à disposition.
Ouais, c'est vrai, tout à fait.
Et ben, on va pouvoir parler un peu de l'essai en lui-même. On va pas se mentir, le titre est un peu provocateur. Et sous ce titre, tu te proposes d'explorer la place des hommes trans sous le prisme du féminisme et de la façon dont les hommes trans peuvent s'y intégrer. Cette exploration des questions te permet de mettre à jour les conceptions plurielles des masculinités alors convoquées. Est-ce que tu peux nous parler un peu du titre? Quelle est un peu son histoire pour les personnes qui n'ont jamais entendu la formule Men Are Trash?
Ouais, alors c'est pas moi qui ai choisi le titre au début, c'est mon éditeur qui l'a proposé et j'ai accepté. On comprend tous les deux l'intérêt d'avoir un titre un peu choc parce que ça attire le regard, parce qu'en termes de marketing, ça a un intérêt, etc. Mais en même temps, on veut que les gens comprennent de quoi le livre parle et notamment moi, une des choses que je disais, c'était ce livre, il s'adresse à plein de gens, mais entre autres, il s'adresse aux hommes trans. Et entre autres, il s'adresse aux hommes trans qui ont des difficultés à se poser ces questions-là et qui trouvent que quand les gens parlent des hommes trans et du féminisme, ils disent souvent des choses violentes et donc pour qui le sujet est compliqué à adresser. Et donc si eux, ils voient le livre et ça dit déjà, voilà, les hommes trans sont des salauds comme les autres, machin, ils vont se dire, ok, c'est même pas la peine que j'y touche. Donc pour moi, il y avait un enjeu de comment on s'assure que malgré le titre, l'objectif du livre soit clair. Et pour moi, le fait de rajouter le sous-titre qui est donc féminisme, transmasculinité au pluriel, féminisme et patriarcat, c'était une manière de dire on a mis un titre, mais qu'on soit bien clair, il s'agit d'un essai sur les transmasculinités dans leur pluralité et leur relation au féminisme. On n'est pas en train de faire une caricature, il s'agit vraiment de réfléchir à ces sujets-là, quoi. Je pense qu'aussi le fait que un certain nombre de gens me connaissent joue un peu à aider à fluidifier cette chose-là de... Pour les personnes qui me concernent, c'est à minima, elles me font confiance, elles savent bien que je vais traiter ce sujet-là avec nuance, etc. Mais c'est vrai que voilà, il y a forcément un peu à double tranchant de faire ce genre de titre. Et en même temps, pour moi, c'était un titre qui était pertinent vis-à-vis du contenu, parce qu'effectivement, une des questions qui est traitée, c'est quand on dit Men Are Trash, tous les hommes sont des salauds, qu'est-ce qu'on dit vraiment? Et du coup, une fois qu'on a répondu à qu'est-ce qu'on dit vraiment, est-ce qu'on dit ça des hommes trans ou est-ce qu'on dit pas ça des hommes trans? Est-ce qu'ils sont inclus dans ce propos-là? Et donc, il y a plusieurs chapitres qui parlent de cette notion oui, c'est important de dire et de rappeler que les hommes feront tous partie du patriarcat, sont tous concernés par ces enjeux, ont tous été éduqués dans un contexte qui pousse à la misogynie. Tout le monde, d'ailleurs, hein, pas que les hommes, les femmes aussi, elles sont élevées dans un contexte qui pousse à la misogynie, malheureusement. Et donc, on ne peut pas exclure facilement des hommes de ce conditionnement et de ce système-là et des bénéfices qu'ils vont en tirer de manière plus ou moins inévitable. Mais en même temps, c'est important d'analyser ce propos-là avec en restant connecté à la réalité, c'est-à-dire que oui, on est tous dans ce contexte-là qui nous forme et nous pousse d'une certaine manière, mais c'est bien ce contexte et ce système-là qui crée ce système et pas juste les hommes sont des salauds par nature, c'est arrivé comme ça par hasard. Et donc de vraiment garder en tête cette notion de comment on est conditionné et par quoi, et pas juste oublier ces questions-là et se dire bah voilà, le résultat c'est que les hommes sont misogynes et violents et puis c'est tout, et on a oublié pourquoi on était en train de dire ça et quelle est la cause de ce constat-là, même si ce constat est vrai dans un certain nombre de cas. Et donc voilà, l'essai ne parle pas que de ça, mais parle notamment pas mal de ça. Donc pour moi, le titre fait sens dans ce contexte aussi. Des fois, on a une chose à dire et il y a plein de manières de le dire qui sont adaptées dans différents contextes. Un slogan, c'est utile, ça sert à quelque chose, mais c'est pas la même chose qu'un essai politique ou un manifeste. C'est pas la même chose que d'avoir une discussion nuancée, c'est pas la même chose que de réfléchir à un sujet. Et c'est bien d'avoir des slogans, il en faut, mais il faut aussi autre chose. Et donc le fait qu'une même pensée doivent prendre plusieurs formes pour être efficaces et qu'il faut choisir la bonne forme au bon moment pour les bonnes personnes, c'est une question qui se pose aussi finalement dans l'essai.
La propension des personnes et des groupes à commettre ou non des violences est éminemment influencée par les violences qu'il leur est possible et encouragé de commettre.
Tous des salauds, page 15.
L'essentialisation de la violence masculine ne permet pas d'analyser et de comprendre cette violence, et surtout, n'est pas un outil efficace pour la combattre. Cela ne veut pas dire que je pense qu'il faut bannir le slogan ménartrage du vocabulaire militant. De toute façon, c'est pas moi qui décide. Mais cela peut vouloir dire qu'il faut se demander dans quel but nous l'utilisons, à qui nous l'adressons et ce que nous mettons derrière.
Ménartrage, vraiment ? Page 46.
La transphobie nous vise et nous impacte en tant qu'hommes trans. Et nous ne pouvons pas séparer ces deux aspects de la même identité en prétendant qu'être un homme offre du privilège d'un côté et être trans de la discrimination de l'autre.
Masculinité et marginalisation, page 82.
Cependant, le groupe des hommes gays cis est aussi un groupe extrêmement hétérogène. En réalité, la majorité des discours qui s'attaquent au cis-gay comme le fléau de notre communauté conçoivent le cis-gay comme un homme cis-gay, blanc, de classe moyenne et de milieu urbain. Mais les cis-gays sont autant Gabriel Attal que les drag queens au RSA, et leurs priorités politiques ne s'entrecoupent pas beaucoup.
Et les pédales dans tout ça, page 94.
Nous ne voulons pas seulement nous défendre et survivre, nous voulons construire et vivre. Et pour construire et vivre, nous avons besoin de nous traiter les uns et les unes et les autres comme des êtres humains complexes, capables d'agentivité et capables de changement. Pas comme les pions noirs et blancs d'un échiquier où nous ne pouvons que rester dans notre camp ou mourir.
Conclusion, page 107. Il y a un passage en particulier qui m'a marqué dans l'ouvrage, donc c'est dans le chapitre sur la masculinité et la marginalisation, si je me trompe pas, où tu écris « Nous ne sommes pas juste trans, nous sommes des hommes trans. La transphobie nous vise et nous impacte en tant qu'hommes trans, et nous ne pouvons pas séparer ces deux aspects de la même identité en prétendant qu'être un homme offre des privilèges d'un côté et être trans de la discrimination de l'autre. » D'ailleurs, j'étais un peu amusée de voir que c'était l'une des citations qui était utilisée pour faire la promotion de ton ouvrage. Mais du coup, moi, quand je lis ce passage-là, ça me fait penser à une réplique de Légion, où en fait, un personnage qui incarne la folie du personnage principal dit, en fait, vous allez pas pouvoir vous débarrasser de moi, parce que on ne peut pas défaire de la soupe. Tu prends plein d'éléments, tu les mixes ensemble, et après, c'est une soupe, et ça ne pourra pas être autre chose qu'une soupe.
Ouais.
Donc j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose comme ça qui se jouait sur les identités transmasculines. Et du coup, je suis allée lire un auteur qui a une grosse obsession sur Légion. D'ailleurs, c'était marrant parce que l'article que j'ai relu en premier, « What would David Harold do, The Art of Villain ?» commence en disant « Merci Alistair de parler de Naruto, parce que maintenant, moi aussi, je peux parler de Légion. » Dans cet article, dans The Lion, revient sur le fait que les personnes que l'on décrète qu'elles sont mauvaises, parce qu'elles sont folles ou autre chose, on leur prive en fait toute évolution ou toute échappatoire en fait. Et c'est bien pratique parce que du coup, ils sont tort, ils sont vélins, donc on les interne et on a bien raison. Je me posais la question par rapport à toutes les interrogations que tu portes autour de la réflexion de Six Men Are Trash, vraiment, si c'était quelque chose à discuter. Au moment du coup où j'écrivais dans le mail que j'allais avoir envie de parler de ça, je me suis rappelée d'une autre série qui s'appelle Lady Part, où il y a des personnages qui chantent une chanson qui s'appelle Glass Ceiling Feeling, et dont le refrain reprend les mots d'Audre Lorde. La maison du maître ne peut pas être défaite par les outils du maître. Il y a plein de limites que tu évoques à Six Men Are Trash, qui sont l'essentialisation, les rhétoriques transphobes, etc. Donc, voilà, je voulais discuter avec toi de comment on doit veiller à ne pas utiliser les outils des gens qui nous oppressent, en fait.
Ouais, je pense qu'effectivement la question de ne pas être, on ne peut pas défaire la maison du maître avec les outils du maître, c'est quelque chose qui, j'utilise pas cette citation dans les sèpes, et j'aurais vraiment pu, parce que c'est effectivement une thématique centrale de, en fait, même si c'est pour dire des choses peut-être féministes d'une certaine manière ou queer d'une certaine manière, etc., si on continue d'utiliser des rhétoriques où on essentialise les gens en disant tel groupe, de toute façon, ils sont mauvais, de toute façon, ils sont violents, ou de toute façon, ils sont pas capables d'avoir des relations honnêtes ou équilibrées, ou je sais pas quoi, on est foutu, en fait. Parce que quand on commence à idéologiquement permettre cette catégorisation, on perd la capacité à la dénoncer là où elle est utilisée pour des raisons fascistes. Et on se rend aussi, je pense, vulnérable à cette propagande-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est habitué au fait qu'on a le droit de dire de toute façon, les hommes sont violents et incapables d'amour sincère, par exemple, si on se désensibilise au fait que c'est acceptable de dire ça, on n'a plus les réflexes de permettre de ne pas accepter ce genre d'affirmation quand c'est utilisé dans des contextes beaucoup plus mortifères, parce qu'il y a tout un système qui le soutient dessous. La différence entre, je trouve que c'est intéressant aussi, du coup, tu parlais de la manière dont on considère que les fous sont voués à la violence. Il y a une grosse différence entre dire, évidemment, les fous sont violents, on peut rien y faire, et les hommes sont violents, on peut rien y faire. C'est que le système soutient les hommes violents et ne soutient pas les fous violents. Donc, les résultats de ces deux affirmations sont très différentes. Mais en fait, le fait d'être capable de dire et de croire les hommes sont violents, de toute façon, on peut rien y faire, ça te rend perméable idéologiquement à, par exemple, les fous sont violents et on peut rien y faire. Et c'est un peu quelque chose dont je parle, je crois, aussi dans ma vidéo « Les personnes trans sont-elles folles ?» de si idéologiquement on commence à dire « Oui, il y en a quand même quelques-uns, ils sont vraiment fous, on peut pas les écouter, ce qu'ils disent n'a aucun sens, ils peuvent pas se défendre, ils peuvent pas avoir de l'autonomie, etc. » Une fois qu'on accepte cette prémisse qu'il y a des gens, on a le droit de les mettre dans cette case, forcément, cette case, elle va être utilisée contre les personnes queer, contre les personnes SDF, les travailleuses du sexe, les addicts, n'importe qui d'autre de marginalisé qu'on peut mettre dans cette case. Et du coup, il faut pas créer la case au départ. Et je pense que cette question de « il faut pas créer la case au départ », elle est et dans nos discours, parce que ça va être réexploité par le fascisme, etc., mais elle est aussi dans notre tête. Il faut que dans notre tête, on n'ait pas cette case, Sinon, le fascisme peut mettre des trucs dans cette case qui est déjà dans notre tête, qui est toute faite là pour lui. Il ne faut pas attendre que la case soit utilisée pour commettre des actes de violence systémique, pour que la case soit un problème et qu'on doive essayer de la déconstruire à l'intérieur de nous.
Et là, on était plutôt en train de parler, on va dire, d'une utilisation très offensive, agressive. Mais je pense qu'il y a des choses plus pernicieuses qui passent encore plus sous le radar, comme par exemple, les hommes trans sont-ils vraiment des hommes ? Est-ce que toi, tu as d'autres garde-fous à nous donner pour s'outiller par rapport à cette autre, on va dire, tentation d'essentialisation ?
Bah, en ce moment, je réfléchis pas mal à ces questions d'essentialisation du genre dans les espaces queer, etc. Un essai que j'ai lu et qui a pas mal nourri mes réflexions là-dessus, c'est dans Matérialisme trans. Il y a plein de choses qui m'ont énervé dans Matérialisme trans, notamment globalement une incapacité totale à penser que les hommes trans sont gays, des fois. Donc c'est aussi, ça m'a motivé à parler plus de ça dans mon propre travail. Mais j'ai beaucoup aimé l'essai de Noémie Grunenwald dedans, qui s'appelle, je crois, Des femmes comme les autres. Et où dedans, elle parle de la question de les femmes trans sont-elles des femmes comme les autres ? Ce qui est drôle, du coup, que ça fait écho. Et elle parle de toutes ces tentatives qu'il y a à la fois du côté des personnes trans et à la fois du côté des personnes anti-trans de définir ce qu'est une femme et de dire, bah voilà, les femmes, par essence, elles vont toutes avoir telle expérience parce que la misogynie. Et donc, si les femmes trans, elles font l'expérience de cette misogynie, c'est des femmes. Ça va être ça qu'on va dire du côté trans. Genre, oui, ce qui définit les femmes, c'est leur place dans l'espace public, etc. Et les femmes trans aussi, elles sont victimes de misogynie, donc c'est des vraies femmes. Et de l'autre côté, on va avoir des terres qui vont dire « ce qui fait l'expérience d'une femme, c'est les règles, c'est la misogynie basée sur la reproduction, etc. » Et les femmes trans, elles n'ont pas ça, donc ce n'est pas des femmes. Et en fait, ces deux choses-là font une espèce de tentative d'essentialisation de genre en partant du principe qu'il y a une chose qui définit toutes les femmes, que toutes les femmes expérimentent. Il y a un argument comme ça qu'on pourrait trouver et définir et dire « voilà, c'est ça les femmes ». Et ce que Noémie Grunenwald dit dans cet essai, c'est qu'être une femme, c'est plus un espèce de grand diagramme de Venn où il y a plein d'expériences que beaucoup de femmes ont, et la majorité des femmes vont se retrouver à l'intersection de beaucoup de ces expériences-là. Mais aucune expérience n'est partagée par absolument toutes les femmes, et aucune femme n'a absolument toutes ces expériences. Et dedans, et ça m'a beaucoup plu parce que c'est un sujet que je trouve qui est souvent peu adressé, elle donne l'exemple de l'accès aux droits reproductifs, notamment à l'avortement et à la stérilisation définitive. Et elle dit, voilà, on va dire que bah, une expérience de femme, c'est de souvent se voir retirer ses droits reproductifs, le droit à la contraception, à l'avortement, etc. Et c'est vrai, mais une expérience de femme, par exemple de femme handicapée ou de femme noire, c'est aussi la stérilisation sous contrainte, c'est aussi les avortements forcés parce qu'on considère que tu pourras jamais être une bonne mère parce que t'es folle, et c'est aussi des expériences de femmes. Et quand on dit bah voilà, une expérience commune aux femmes, c'est tel contrôle sur leur reproduction, on exclut certaines femmes, et en l'occurrence des femmes les plus marginalisées parmi les femmes dans un certain nombre de cas, et c'est un problème. Et je trouve que c'est, enfin moi, cette image du grand diagramme de Venn où on partage tous des expériences mais jamais tout en même temps, elle me paraît être une très bonne façon de penser la question de c'est quoi être une femme, c'est quoi être un homme, et notamment vis-à-vis des personnes trans, de oui, on va partager plein d'expériences avec les femmes cis ou avec les hommes cis, pas toutes, parce qu'on n'est pas des femmes cis ou on n'est pas des hommes cis, mais c'est pas ça la question en fait. La question, c'est qu'on est un groupe qui est quand même varié et qui est cette nébulosité de différentes expériences, souvent communes, mais jamais totales. Et je trouve ça vraiment bon comme outil pour lutter contre ces tentatives d'essentialisation, où on serait tenté de se dire « les hommes, ils sont tous conditionnés à avoir tel comportement ou telle pensée, et les femmes, à l'inverse, elles sont toutes conditionnées, je sais pas, à ne pas lever la voix, à pas s'énerver, etc. » Alors qu'en fait, non, il y a plein de situations où les femmes, au contraire, elles sont conditionnées à s'énerver et à avoir des émotions fortes, alors que les hommes, pas forcément, etc.
Eh bah, écoute, c'était ma dernière question. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu aurais souhaité aborder, ou que ce soit en rapport avec l'essai ou pas, tu as ton espace de prise de parole libre.
Sur cette histoire de « on peut pas défaire de la soupe », je pense qu'effectivement, la notion de « il y a des interactions entre les différentes vécus de domination », je vais pas dire que c'est acquis parce que ce serait un petit peu optimiste, mais tout le monde dans les milieux militants commence à être un peu au courant de cette histoire. Mais j'ai l'impression que des fois, dans la compréhension, c'est vraiment vu comme on vit d'un côté, par exemple, la misogynie et de l'autre côté, le racisme. Et ces deux choses, bah, on les vit en même temps, donc elles interagissent. Et c'est vrai, mais c'est pas que ça. C'est vraiment qu'il y a une fusion des deux expériences qui crée une expérience tierce qui est une expérience en soi. Et c'est ce dont je parle, par exemple, sur le mélange de être trans et être un homme. C'est pas juste qu'on vit des choses, des expériences de trans et des expériences d'homme, et des fois ces deux trucs interagissent ensemble. C'est qu'on vit des expériences d'homme trans, et c'est quelque chose en soi qui est pas juste la somme de trans plus homme. De la manière que, comme tu le disais, ben, une carotte et une pomme de terre, c'est pas la même chose qu'une soupe, quoi. À un moment, on parle de quelque chose d'autre. Et une fois qu'on a de la soupe, on peut pas revenir à juste la carotte et juste la pomme de terre. J'en parle aussi sur la question des hommes gays, parce que moi, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup au quotidien et dans mon rapport aux espaces queer, aux personnes queer, etc. C'est la manière dont on parle des hommes gays, comme si être un homme gay n'était pas une expérience en soi, que juste c'était être un homme et être queer de l'autre côté, mais que bon, fondamentalement, on était quand même toujours juste des hommes, quoi. Et que du coup, on n'avait pas une expérience propre, une culture propre, etc. Et moi, je suis témoin dans le même temps de cette espèce d'effacement de, surtout auprès des hommes cis gays, mais en fait, fondamentalement, c'est ce que je dis dans le livre, tout ce qu'on dit sur les hommes cis gays, on le dit plus ou moins sur les hommes trans gays à un moment donné, de voilà, les cis gays, ils sont tellement privilégiés, ils sont déconnectés du réel, etc. En même temps, on nous dit ça que, bah voilà, on n'a pas de vécu d'oppression vraiment considérable et spécifique et important par rapport aux autres personnes dans la communauté queer. Et en même temps, on nous reproche plein d'aspects culturels de la culture gay qui sont justement nés de ces vécus de violence. Et notamment, je pense à la manière dont plein de gens parlent de la culture du cruising, du sexe gay, de Grindr. On va nous dire, ah là là, les hommes gays qui ont du sexe dans des bars ou qui envoient des dick pics à n'importe qui sur Grindr, machin. C'est soit c'est dégueulasse, soit c'est limite. Les gens nous disent, bah voilà, c'est de la violence sexuelle que d'envoyer des dick pics sur Grindr à n'importe qui. C'est genre, bah, c'est le principe, en fait. On est des hommes gays dans un espace de rencontre sexuelle et du coup, on fait des choses gays et sexuelles. C'est tout l'intérêt de l'espace et c'est pas ni abusif ni dégueulasse. Et cette culture-là, elle existe spécifiquement parce que l'homophobie, elle existe et que donc la culture sexuelle de la communauté gay s'est créée dans le fait de ne pas pouvoir se voir chez soi, de devoir se voir vite, de devoir se voir sans se connaître. Et donc, on a tout cet historique d'homophobie qui nous a fait développer une culture spécifique pour y répondre et pour s'épanouir malgré l'homophobie. Et on nous dit, cette culture, elle est dégueulasse, mais en même temps, l'homophobie n'existe pas vraiment. On voit bien qu'il y a un espèce de grand manqué pour moi sur penser la culture gay et son histoire et son importance et sa viabilité qui me questionne beaucoup au quotidien et auquel j'ai envie de donner de la place dans mon travail aussi.
Toi, à quoi je pensais en t'écoutant, c'est que va y avoir d'autres choses à prendre en compte dans les discriminations qu'on vit, c'est-à-dire que il y a nous, notre agentivité, le fait qu'on ait en permanence tous ces éléments identitaires-là, on n'arrête pas d'être trans pendant qu'on se fait, qu'on a un problème, on va dire, sexiste. Mais en tout cas, en face, va y avoir aussi une pluralité de regards qui va se jouer. Tu parles notamment dans le livre de tout ce qui va être, on va présumer tel élément identitaire. Donc, en fait, c'est pas juste qui on est qui va déterminer ce que l'on va subir.
C'est très vrai aussi, effectivement, et je pense que ça va avec un peu... En même temps, on essentialise les expériences des personnes marginalisées, genre les femmes, elles vivent ça, et la misogynie, c'est ça. Mais on essentialise aussi un peu les expériences et les opinions des personnes qui commettent ces violences-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières d'être misogyne aussi, et de raisons d'être transphobe, et ces différents groupes idéologiques vont pas appliquer la transphobie et la misogynie de la même manière. Et du coup, penser la misogynie ou la transphobie comme un espèce de monolithe qui arriverait à tout le monde de la même façon, c'est à la fois faux parce qu'on est différent, donc on subit pas les mêmes choses, mais aussi on est dans des milieux différents qui appliquent pas la misogynie ou la transphobie de la même manière. Et notamment, un truc qui est des fois un peu mal pensé, je trouve, dans les discussions sur les sujets queer, c'est que y a un certain nombre de personnes queer qui vivent beaucoup dans des milieux queer au quotidien. Et donc, quand on dit, bah voilà, au quotidien, on a telle ou telle pression, les gens vont me dire, bah non, dans la vraie vie, dans la société, personne, genre, enfin, je sais pas comment dire, mais il y a une confusion que la pression sociale de la société en général, c'est forcément ça qu'on vit dans notre quotidien, alors qu'on est plein dans notre quotidien à vivre dans des espaces vraiment spécifiques, dans des communautés spécifiques, où les injonctions et les possibilités sont pas les mêmes. et adresser les injonctions spécifiques qui existent au sein d'espaces queer, par exemple. Typiquement, bah, à un moment, je parle du fait que ça va être pour un homme trans, il y a pas mal de personnes qui vont mal voir ça dans des espaces féministes, etc., de vouloir faire une phalloplastie, de vouloir avoir un pénis, parce qu'il y a une espèce de démonisation de... Mais de toute façon, ça sert à rien, c'est nul. Si tu veux ça, c'est forcément par une espèce de volonté de correspondre à un idéal patriarcat, hétéro, de violence sexuelle, etc. Et on pourrait nous dire, bah non, dans la société en général, tout le monde trouve ça normal qu'un homme ait un pénis, donc c'est pas vrai, cette injonction à être un homme qui n'a pas de pénis, c'est pas une injonction qui existe. Mais elle existe, en fait. Elle existe juste dans des espèces différentes, de la part de personnes différentes. Et elle existe ailleurs dans la société en général, parce que les opérations génitales sont très mal vues, mais c'est un peu une autre question. Les injonctions qui existent dans des milieux minoritaires, elles sont pas innocentes et elles sont pas sans conséquences, parce que souvent, c'est des espaces dont on est très dépendant en tant que personne marginalisée. Et donc, c'est pas parce que ces injonctions sont faites dans des espaces rares par un petit nombre de personnes qu'elles nous impactent pas beaucoup à nous qui vivons dans ces espaces rares avec ce petit nombre de personnes. Donc, ça me paraît aussi important de penser à la question des injonctions et des normes, avec le fait qu'il existe des espaces où les normes et les injonctions sont différentes.
I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I've come through.
And it's a
on and on and on and on.
We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end.
Bow, my curtain call. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race.
Merci à Alistair Oudeyer d'avoir répondu à mes questions, ainsi qu'à la maison d'édition Double Ponctuation pour l'envoi presse. J'espère que cet entretien aura éveillé votre curiosité et vous aura donné envie de mettre la main sur cet essai. Pour information, il est non seulement court, mais aussi très fluide à lire. Et c'est la personne abonnée aux chroniques BD parce que la prose lui tombe des mains qui vous dit ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter l'émission que nous avons fait en featuring avec Le Retour de Vénus. On y parlait déjà de cet essai et des masculinités en général. Le lien sera disponible en description du podcast avec toutes les références citées au cours de l'émission. Sur ce, bonne soirée sur Syllabe.